Bonjour, bienvenue à Escale 1718 avec Fulgence Blanc au micro et Nicolas Swartman à la technique. Oui, c'est mercredi, voilà. Oui, c'est le 2 février 2022 aujourd'hui, oui. Alors, en première partie d'émission, c'est le chroniqueur de plein air et de loisirs, Stéphane Bourdi, qui va nous parler du parc du Mont-Loup-Garou. Le parc du Mont-Loup-Garou. Ceux qui veulent en savoir plus, n'allez pas loin, restez à côté. Et en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Lison Lescarbot, qui a traduit le livre « Le super pouvoir de la marche ». Le super pouvoir de la marche. La science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. Nicolas, prends ton micro, s'il te plaît. Est-ce que tu marches beaucoup, toi?
Non. Non, je suis un sportif, mais la marche n'est pas ce que je préfère.
Ça fait pas de partie de tes dadas ou bien de tes tasses de thé?
Non, je préfère courir que marcher.
Ouais. Ah, tu fais du jogging.
Je préfère faire ça que juste une marche normale. À moins que peut-être une marche en forêt ou en montagne, là, peut-être un peu plus, mais même là, c'est un peu plus.
Mais tu flânes de temps en temps en ville quand même, Nicolas.
Rarement, mais...
Ou bien au parc.
Oui, des fois, mais il faut que je sois avec un groupe d'amis. J'irai pas tout seul.
Ah, tu n'iras pas tout seul flâner
non,
au parc?
Non, c'est ça, non.
Faire le tour du parc en train de...
Non, ah, okay. Si je suis seul, je vais rester chez moi.
Merci à toi, Nicolas. Allez, donc en deuxième partie, on va voir Lison Lescarbot qui va nous parler du pouvoir, le super pouvoir de la marche, la science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. C'est elle qui a fait la traduction d'ailleurs, parce que ce livre est de Shane O'Mara, qui est chercheur et professeur en neurosciences au Trinity College de l'Université de Dublin en Irlande. Voilà, donc c'est tout frais, traduction 2021, oui. Voilà, troisième trimestre, voilà. Lison Lescarbot est mieux placée parce que en même temps elle est présidente et éditrice en même temps aux éditions Château d'encre. Là c'est en deuxième partie d'émission. Qu'est-ce qu'on fait, Nicolas? Comme d'habitude, on va en musique avec Dobé Nyaru et la complicité de Nabi Bérézi Paléa.
Palea mese, beini agunio. Palea, beini agune. Palea mese, beini agunio. Wolo ane no same ane, bala kakabako. Wolo ane no same ane, bala kakabako. Palea, beini agune. Palea mese, beini agunio. Wolo ane no same ane, bolo kakabako. Wolo ane no same ane, bolo kakabako. Hey megala leze namo, mene. Hey megala leze namo, mene. Hey megala leze namo, mene. شنو انا نشوف يا وغدوه بيك يا عمري يا وقلبي فيك وحياتي ما بين ايديك خليني في عينيك راهو روحي ليك نحلم بيك وبدنيتي دنيتي غدوه فيك
Akadetele,
akadetele,
akadetele.
قلبي وحياتي ما بين ايديك
نايري اغلى من مربوع
يا عمري وقلبي فيك
اذا ما بقوم بالي
عندي
اذا ما بقوم بالي
يا حبي
Ah oui, c'était Double Nyaoui avec la complicité de son bassiste Nabil Bérézien, grand bassiste d'ailleurs, Paléa, c'est le titre, c'est une pièce d'ailleurs qui a eu le Grammy Award il y a quelques années de cela. Alors, le grand monsieur qui va nous parler du Parc du Mont, Loup-Garou, Stéphane Baudry, qui me retrouve ici tous les mercredis maintenant. Pandémie oblige, hein, et puis lui aussi, il doit faire du télétravail, donc c'est à partir de la maison de chez lui. Voilà, il est au bout du fil. Stéphane Baudry, bonjour à toi, comment vas-tu?
Bonjour, Fujan, ça va très bien, merci. Et toi?
Oui, ça va. Ouais. Alors, tu nous as choisi le parc du Mont Loup-Garou. J'ai dit, mais c'est où ça encore?
Alors, le parc du Mont Loup-Garou, c'est à Sainte-Adèle.
Ah oui.
Oui. Au début des années 30, il y a eu plusieurs centres de ski alpins qui ont commencé à apparaître parce que dans la région des Laurentides, avec l'arrivée du remont de pente mécanique, qui devenait très pratique pour pouvoir faire du ski.
Oui.
Et afin de relier les centres, il y a eu un important réseau de sentiers de ski de fond qui ont vu le jour. Et évidemment, il y avait des refuges et tout. Et il y avait entre autres un refuge qui s'appelait André's Cabin, qui avait été bâti au sommet du Mont Loup-Garou. Alors, c'était un endroit où est-ce que les gens, ils faisaient des kilomètres de ski de fond, pouvaient se réfugier, se réchauffer un peu et tout. Et la région s'est beaucoup, beaucoup développée au niveau de l'activité de plein air. Il y a eu des organismes qui ont été créés dans la région, on sait pour ça,
oui.
Pour permettre de favoriser les activités et aussi la préservation des endroits où est-ce qu'on pouvait faire ces activités-là.
OK.
Et le 11 juin 2021, la ville de Sainte-Adèle a officiellement inauguré le parc du Mont Loup-Garou, vraiment pour réserver une grande place aux activités de plein air sur son territoire.
OK.
Et le refuge est toujours là. Stéphane, rénové, mais toujours là.
Stéphane, été comme hiver?
Oui, okay. Été comme hiver. Mmh. Alors, c'est vraiment intéressant. Mmh. On parle quand même d'une superficie de 788 acres. C'est l'équivalent environ de 595 terrains de football.
Non, on parle d'hectares, là. Oui, quand on dit acre, oui, c'est...
Ouais, c'est ça. Alors, c'est presque 600 terrains de football. C'est quand même immense. Ouais. On parle de sentiers pour la randonnée, la marche, la raquette, le ski de fond et le vélo à roues surdimensionnées pour l'hiver, évidemment, et l'été, mais c'est le vélo et la randonnée pédestre.
Oui, oui, oui.
C'est quand même le sommet le plus élevé de la région, qui s'appelle la MRC des Pays d'en haut. C'est 498 mètres.
Oui, 400. Oui, quand même, c'est élevé quand même. Hein?
Oui, puis il y a deux beaux lacs aussi, le Matelet et le Richer. C'est sûr que l'hiver, c'est deux belles étendues enneigées et de glace.
Oui.
Mais ces deux lacs sont là, et on peut se promener autour de ces lacs-là. L'accueil est au 1970 Chemin du Paysan à Sainte-Adèle. C'est vraiment important d'aller, il y a comme plusieurs stationnements, un après l'autre. Le stationnement numéro un, c'est là qu'il va avoir la carte, c'est là qu'il va avoir des toilettes chimiques.
Oui.
C'est vraiment le meilleur endroit où arriver.
Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est que les toilettes chimiques? Il y a des gens qui vont se demander, c'est quoi les toilettes chimiques?
C'est des toilettes, c'est pas à l'intérieur, là, c'est vraiment comme un peu qu'on voit sur les chantiers de construction.
Ah! Ah, OK, les cabines.
Oui, c'est ça. Il n'y a pas de chasse.
Ah, OK, je vois. Voilà, c'est ça. Des toilettes chimiques.
Oui. Mmh, alors, okay. C'est ça qu'il y a à cet endroit-là.
Mmh.
Ils sont vraiment au stationnement. Il n'y en a pas au refuge, malheureusement.
OK.
Oui. Alors, comment on s'y rend? On s'y rend, c'est à 1 heure de Montréal. Dans le fond, on prend l'autoroute 15 Nord, sortie 64, et on est pratiquement arrivé.
Oui.
C'est vraiment aussi simple que ça. Et c'est quand même, c'est un endroit vraiment intéressant. Il y a 13 km de sentiers pour faire de la randonnée ou de la raquette.
Oui.
Et c'est des sentiers, c'est pas plat, mais en même temps, ça monte pas trop longtemps, ça descend pas trop longtemps. C'est toujours agréable, ça bouge, ça monte et descend assez pour être intéressant, sans devenir trop exigeant.
Mmh. Mmh.
Par contre, il y a 14 km de pistes de ski de fond, qui ces pistes-là sont considérées comme étant d'un niveau avancé. Il y a quand même des bonnes descentes et des bonnes montées. Alors, il faut quand même être habitué au ski de fond.
Voilà, c'est pas pour les débutants, ça.
Non, j'ai vu quand même des. On croisait parfois des gens qui descendaient, là, et il y avait quand même une pente assez. Ça glissait vite.
OK, d'accord.
Ouais. Il y a aussi, évidemment, le parcours de Fat Bike, 15,4 km. Alors, c'est vraiment toutes des. En général, il y a quelques sentiers qui sont communs, mais en général, ce sont des sentiers où est-ce qu'on a vraiment notre activité sur le sentier, à part la marche et la raquette qui se font sur les mêmes sentiers.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est que les sentiers se recoupent souvent. Ça fait comme une toile, je dirais. Alors, on peut planifier notre parcours. Surtout en raquette, on pouvait arriver et dire, OK, on veut passer à côté du lac, après ça, on va aller vers un point de vue.
C'est-à-dire,
on pouvait emprunter différents sentiers qui se recoupaient comme ça.
C'est-à-dire qu'on peut créer sa propre toile, quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Exactement. Mmh. Alors, c'est vraiment intéressant pour ça, parce que à un moment donné, on partait, on disait, ah, ben là, on peut en faire un peu plus, puis on essayait d'autres petits sentiers.
Oui.
C'était vraiment intéressant pour ça.
Mmh.
La vue du haut du Mont-Loup-Garou, le point de vue, c'est vraiment splendide. Il y a un panorama qui inclut plusieurs autres monts. On voit les pistes de ski sur les autres monts et tout. Et c'est pas trop difficile à monter, même si la montagne a quand même un haut sommet.
Oui.
La montée, ça fait très de façon très progressive.
Mmh.
On est déjà haut dans le fond quand on arrive au stationnement au départ. Alors, c'est quand même, ça se fait très, très bien. Même si on n'est pas un expert de la randonnée.
Ouais, mais moi, presque 500 mètres, ça se fait. Moi, je peux le faire. Bon, mais tant que ça pas, c'est pas la hauteur du Kilimanjaro en Tanzanie.
Non, vraiment pas.
Ah, ça me demande pas l'impossible. 500 mètres, ça se fait. Ça se fait bien quand même, 500 mètres.
Ça se fait plus rapidement aussi. Hein.
Oui.
Mais on a trouvé quand même, c'était vraiment intéressant. Par exemple, il y a un sentier de raquettes et de marches qui traverse le lac.
Oui.
Alors, on se promène, c'est vraiment une grande étendue de neige. Il y a des gens qui sont amusés à faire des formes dans la neige et tout, mais on traverse ça et ça fait quand même spécial de se promener sur la glace, sur le lac. Il faisait quand même assez froid le week-end dernier, alors c'était pas trop inquiétant de se promener sur la glace.
Oui.
Mais c'était vraiment une belle expérience. Ça fait une grande plaine plate de neige. C'était bien. Et l'été, c'est ça, c'est la randonnée, le vélo, les lacs. Sont vraiment beaux.
Mmh.
Et il y a des sentiers qui traversent une genre des marais.
Ouais.
Ça aussi, c'est toujours intéressant de traverser des marais. Il y a plein de faune, il y a plein de flores. Alors, c'est toujours...
Donc, ça veut dire que c'est une région un peu marécageuse, quoi.
Oui, okay, exactement.
Quelles sont les heures d'ouverture, Stéphane?
C'est à tous les jours, de 7h à 22h.
Tous les jours?
Oui, tous les jours. Mais sinon, il va quand même le soir tard, j'amènerai une lampe frontale parce que c'est quand même...
OK. Du 1er janvier au 31 décembre?
Oui, c'est toujours.
Wow.
Ça fonctionne tout le temps.
OK.
Et c'est une pour la tarification, c'est une contribution volontaire suggérée.
Oui.
On peut le faire en ligne où il y a carrément une boîte au stationnement où on peut mettre de l'argent.
Oui.
Alors, ils vont suggérer un montant, mais on paye dans le fond, ce qui nous tente, ça va permettre justement à tout ce qui est l'entretien la préservation de l'endroit.
Oui, de toute façon, oui, parce qu'il faut entretenir le parc. Hein. Ouais.
Exactement, c'est ça. Alors, c'est quand même intéressant.
Mm-hmm.
Les chiens sont permis. Nous avons rencontré plusieurs chiens en laisse, des grands chiens qui
sont en laisse,
beaucoup à se promener là.
Mm-hmm.
Ouais. Ah oui, c'est ça, toujours en laisse. Et ce qui est intéressant aussi, sur le site, du parc du Mont-Loup-Garou, on a toujours l'état des pistes qui est remis régulièrement à jour.
Oui.
Alors, le site, c'est parcdumontloup-garou.ca. Alors, parc du Mont-Loup-Garou est tout en un mot.
En un seul mot, oui.
Oui, c'est ça. Et c'était très drôle aussi. Il y avait une affiche qui disait qu'il fallait se tenir au moins à 2 mètres du loup-garou. Mais...
ah bon?
Oui. Uh-huh. Un peu d'humour. D'ailleurs, il y a des groupes, c'est pas directement le parc du Mont-Loup-Garou, mais j'ai vu entre autres sur un site kilomètre.ca/loup au pluriel Garou au pluriel.
Oui.
Ils font des randonnées des loups-garous, comme dans le temps d'Halloween, où c'est un peu comme la marche des zombies qu'il y avait à Montréal. Ah, c'est que les randonneurs se promènent sur un parcours de 8 km dans le parc.
Oui.
Et là, il y a des loups-garous qui peuvent les attaquer. Là, puis c'est...
OK, je vois. Et pour terminer, Stéphane?
Ben, c'est seulement à une heure de Montréal.
Mmh.
Le parc du Mont-Loup-Garou, c'est un lieu enchanteur où passer la journée afin d'explorer les nouveaux sentiers et points de vue sur les lacs et la région.
Ouais.
C'est vraiment magnifique.
Très belle vue quand on est au sommet là-bas. Là, oui. 500 mètres quand même, c'est une hauteur.
Oui, puis c'est vraiment un très bel endroit. C'est pas loin. C'est vraiment intéressant. On n'a pas besoin de faire des fois 2 heures pour voir quelque chose de très bien.
Une heure, deux.
Ça, il y a beaucoup de diversité. Mmh. Ouais.
Merci beaucoup, Stéphane.
Merci.
On se retrouve la semaine prochaine à la même heure.
Exactement.
Merci à toi. Et bon reste de semaine et porte-toi bien surtout. À bientôt.
Merci bien, bonne soirée.
Merci.
Bye.
Bye bye.
Celui qui n'a jamais été seul. Celui qui n'a jamais été seul. Tant de fois j'ai tenté d'aller toucher les étoiles, que souvent tombant je m'y suis fait mal. Tant de fois j'ai pensé avoir franchi les limites, mais toujours une femme m'a remis en orbite. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Hey. Tant d'amis sont partis du jour au lendemain, que je sais aujourd'hui qu'on peut mourir demain. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Tant de fois j'ai été jusqu'au bout de mes rêves, que je continuerai jusqu'à ce que j'en crée, que je continuerai, que je continuerai. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, se fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Je continuerai. Celui qui n'a jamais été seul une fois dans sa vie, celui qui n'a jamais été seul, celui qui n'a jamais été seul.
Garou seul. Oui, c'est bien de jouer Garou après avoir parlé du parc du Mont-Loup-Garou. C'est bien. Un jeu de mots, quoi. Voilà, merci Nicolas. Et puis bon, avant de continuer avec une autre pièce musicale pour terminer la première partie de l'émission, je vais parler du lancement du mois de l'histoire des Noirs. Ça s'est passé hier. Hier, c'était le 1er février 2022 pour certains, 2022 pour d'autres. Et voilà, riche programmation. Voilà, La table ronde du mois de l'histoire des Noirs souligne ce... Oh, ça va vite, hein? 31e anniversaire. 31e édition. Cette édition est dédiée d'ailleurs aux créateurs et des milieux culturels et créatrices, bien sûr. Quand je dis créateurs, les femmes et les hommes sont... Ils sont tous là-dedans, hein? Je sais pas, tout le temps. Voilà. Voilà, des milieux culturels lourdement impactés par les effets et restrictions liées à la pandémie. Voilà, ils ont tous été affectés par la pandémie. Plus de spectacles, les salles sont fermées. Donc, qui sont les porte-paroles? C'est Rowan Higgins, et puis qui est la fière porte-parole anglophone et la porte-parole francophone, Cha Franck. C'est une chanteuse, hein, j'espère qu'on aura bien l'occasion de la chance de l'avoir ici en entrevue. Pour cette édition 2022 d'ailleurs, du mois de l'histoire des Noirs. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit, la porte-parole anglophone qui dit, Rowan Higgins, qui dit, dédier cette édition aux artistes est salutaire. Je crois que les artistes captent notre véritable histoire. Ce sont les conteurs et les catalyseurs de l'expression d'une émotion universelle. Ils transmettent ensuite les traditions et brisent celles qui ne sont plus utiles. Ce sont des ambassadeurs de l'espoir et du changement. Et du côté des Cha Franck, voilà, elle y va de devoir de mémoire. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est une célébration où l'on souligne nos réussites pendant que le micro est tourné vers nous. Bien beau ça, c'est poétique. C'est aussi un moment opportun pour amplifier nos voix, continuer d'honorer nos racines, faire le point sur qui nous sommes et partager notre culture avec les autres. Voilà, les lauréats, il y a toute une liste de lauréats. Les lauréats, c'est la table ronde qui produit et distribue gratuitement un calendrier annuel d'ailleurs, et cette édition 100% culturelle, il y a 12 artistes qui ont été sélectionnés. Et qui sont ceux-là? Voilà. Karen Isabelle Jean-Baptiste, Naya Ali, ça c'est une rappeuse, la chanteuse Yeli Taba, l'humoriste Eddie King, l'homme de théâtre Quincy Armoré, et puis le peintre prodige Manuel Mathieu. Et le chanteur Alain Prater et le chanteur Kim Richardson, la chorégraphe documentaliste Rodney Désir et le peintre Emmanuel Ayot, le réalisateur Henri Parlot, l'artiste en art visuel Léon Leveline et le poète Rowan Higgins. Et la poète, pardon. Allez-y sur le site, hein. Moi, Histoire des Noirs en un seul mot. Mais ce n'est pas de l'histoire, c'est Moi, Histoire des Noirs en un seul mot. Voilà. .com. Donc, l'année 2022 qui souligne le 15e anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi proclamant le mois de l'histoire des Noirs. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, elle affirme aussi, encore aujourd'hui, l'engagement de notre... ça, c'est une déclaration, hein. C'est le ministre du Travail, Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, responsable de la région de la Mauricie. Il dit l'année 2022 souligne le 15e anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi proclamant le mois de l'histoire des Noirs. Voilà, elle affirme aussi aujourd'hui, l'engagement de notre gouvernement à reconnaître et promouvoir la contribution essentielle des Québécoises et Québécoises des communautés noires au développement du Québec. Voilà, je vais revenir comme ça tous les jours jusqu'à la fin du mois de février. On va aussi avoir des invités. Il y a ma collègue Arlette avant moi qui a déjà reçu un invité dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et je vais en recevoir d'autres et puis ainsi de suite jusqu'à la fin du mois de février, c'est-à-dire le 28 février 2022 ou bien 2022 pour d'autres. On va en musique, Nicolas? On va terminer en beauté cette première partie de l'émission avant de recevoir notre invité en deuxième partie de l'émission, Queen Agioba Sapio.
Oh, we ain't nothing. inu inyo kana atu ya izi kaza ya ini kawlena di gbagba ko bo wala oni nyo kana o kabona wa uyo kabo mana ze tripa mai o kama ma piwana ze musena abu buaza piwuyo wasapi nwa Deni bobonia Cabo Zebadonia Wawa langi api yona Gawa dre dre pa Wai ble ange via Kamana se motoria Blazrika Camille Grisia de Agozawa Kamana se motonia Abubuaza piwero Wawusapinwa Yeah, wawusapio
Kun Ajoba Sapio. Restez à l'écoute après la pub. La petite pause publicitaire et puis la première plage musicale, je vais recevoir Yson l'escarbot qui va me parler du super pouvoir de la marche, la science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit, aux éditions Château d'Ancre. La présidente est lectrice en même temps. Elle a fait partie de l'équipe de traduction. C'est la raison pour laquelle je l'ai invitée pour venir parler de ça. C'est à l'écoute et à tout de suite.
17-18 avec Fulgence Blas.
Oui, Brian Calberstone, Feel the Love. Voilà, c'est Smooth Jazz. Notre invité déjà au bout du fil, Lison Lescarbot, qui va nous parler de super pouvoir de la marche, la science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. Elle a fait la traduction, parce que l'original du livre d'ailleurs, c'est un neuroscientifique irlandais, donc traduit en français, traduction avec la complicité de Paul Marcel Adam. Voilà, et elle est présidente éditrice de la maison d'édition d'ailleurs, Château d'Ancre. Alors, bonjour Lison Lescarbot, comment allez-vous?
Ça va bien, Fulgence Blanc, vous avez tellement de belles voix.
Oh, oh, oh. Ah là, elle me fait rougir dès le début comme ça. Lison, alors, comment est-ce que vous êtes tombée sur ce... D'abord, merci pour ce bijou, là sincèrement je vous le dis. C'est un bijou.
Vous l'avez aimé, ça
oui.
Me fait plaisir.
Oui, 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 le super pouvoir de la marche et puis la science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. Comment vous êtes tombé sur ce livre-là pour pouvoir demander la permission ou bien l'autorisation de le traduire d'ailleurs en français?
En fait, je suis toujours un peu à la recherche de manuscrits, à dire à vos auditeurs si vous avez des choses.
Oui.
Et c'est sûr qu'on se renseigne, c'est les amis, c'est le réseau, mais cette fois-ci, je suis tombée sur un article du grand quotidien de Guardian en Angleterre.
Oui.
Qui parlait de l'auteur Shane O'Mara, qui est un neuroscientifique. Et c'est un grand, grand article. Il y avait aussi un article dans le New York Times qui est paru pas longtemps après. Mais c'est The Guardian qui m'a allumée parce que c'est je pense que tout le monde est conscient qu'il faut marcher. Je pense que toutes les personnes, tout on sait qu'on doit marcher.
Oui.
Mais c'était la première fois que je tombais sur un texte qui parlait de la marche d'un point de vue cognitif ou neuroscientifique. C'est-à-dire, on expliquait en grande partie, lui, c'est un fervent de la marche, là, c'est un fou de la marche, là, il fait 14 000 pas parfois par jour. Hein.
Oui, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais non, je fais pas la moitié. Voilà.
Ben, c'est IKEA, là, c'est 8 000 pas. Vous savez, IKEA, c'est 8 000 pas à peu près.
Ah c'est bon? Fatigant. Si on fait tout le tour de IKEA?
Le serpentin de IKEA, là, ça ne va pas limiter pas. Mais
okay.
C'était l'aspect, qu'est-ce qui arrive au cerveau quand on marche? Ça m'a complètement, littéralement allumé. Je suis waouh!
Oui.
Puis en faisant la recherche, je me suis rendu compte que le livre n'avait pas été encore traduit en français.
Oui, vous, en tant que présidente et éditrice de la maison d'édition Château-Dent, vous avez dit, voilà une opportunité.
Ah oui, j'ai écrit à l'auteur, je l'ai poursuivi sur Facebook, par courriel, là, sur son site de l'université, sur LinkedIn. Finalement, il m'a donné les coordonnées de son agent, puis je l'ai eu aussi pour la France. Donc, on est en train de travailler pour le mettre en marché en France aussi.
Oui. Il est tout neuf. Oh,
oui.
Avec la préface de Jonathan Brière. Miracle de l'évolution, la maladie. Bon, la marche bipède est propre à l'être humain. C'est en marchant que nous avons quitté l'Afrique pour conquérir le monde. La tête relevée et les mains libres.
Oui.
Le super pouvoir de la marche célèbre cette habileté qui prend sa source dans les profondeurs de la mer. Il y a de cela des centaines de millions d'années. Voilà.
C'est extraordinaire. Hein?
C'est extraordinaire.
Puis, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est bon, l'auteur prend le temps d'expliquer la marche d'un point de vue évolutif. C'est-à-dire, effectivement, on est passé d'un unicellulaire. Il raconte, entre autres, une petite anecdote à propos d'un organisme qui s'appelle l'acidie plissée.
Oui.
Qui vit au début quand à son premier stade de vie, l'acide épicé a une colonne vertébrale, un cerveau rudimentaire, un petit œil, c'est un cyclope, et ça nage, ça se déplace pour manger. Et jusqu'à temps qu'elle arrive à son deuxième stade de vie,
oui.
À ce moment-là, elle va se fixer à un rocher, ça ressemble à nous quand on va sur notre sofa, et pour passer à cette étape-là, elle bouffe son cerveau et son œil unique. Elle devient quelque chose qui flotte dans l'eau et qui ramasse, qui filtre finalement les nutriments qui sont dans l'eau. C'est comme ça qu'elle se nourrit.
Oui.
Et je me dis, waouh, c'est comme nous. le soir, quand on dérive vers le sofa puis qu'on se scotche,
oui.
puis on s'absorbe dans l'écran et on n'a pas besoin de cerveau.
Ah non.
On n'a pas besoin de cerveau.
On se laisse distraire, oui.
Oui. Donc, ça m'a fascinée parce que c'est... En même temps, il prend le temps d'expliquer que la marche, c'est 60 millions d'années. Et c'est l'histoire de l'être humain.
Ouais, depuis que l'humain existe.
Oui, tout à fait.
Oui.
Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, ce qui nous rappelle, puis ce que j'aimerais que les auditeurs et les auditrices se rappellent, c'est qu'on oublie qu'on était des chasseurs-cueilleurs nomades.
Surtout, notre génération. Et puis, voilà, il y a beaucoup de gens. C'est vrai.
On marchait beaucoup plus.
Avant
la Deuxième Guerre mondiale, les gens marchaient encore beaucoup. Maintenant, tout le monde est véhiculé. C'est sûr, tout le monde a une voiture. Parfois, ils en ont deux. On prend le métro, on prend l'autobus. Est-ce que peu de gens marchent vraiment beaucoup?
Non, pas vraiment. Mais il y a certaines sociétés traditionnelles encore, dans certaines sociétés parties du monde, qui marchent encore.
Oui.
Pour aller faire de la cueillette, pour aller à la chasse, pour aller chercher le aliment. Eux, ils mangent du bio tout le temps, mais ils n'appellent pas ça manger bio, c'est naturel, ça fait partie de leur quotidien.
Tout à fait.
Voilà.
Donc, puis, en fait, ce qui est intéressant avec Shane O'Mara, c'est qu'il parle aussi de l'apprentissage des enfants, la marche chez les enfants.
Oui.
Il explique, tout le monde le sait, que ça prend un an, l'enfant va se mettre un jour à vouloir être debout,
oui.
et on s'y attend, et il va faire des milliers de pas et des milliers de chutes jusqu'à temps qu'il la maîtrise très bien. Et c'est un moment très important dans la vie des parents, c'est de voir le premier pas de son enfant. Mais c'est beaucoup de travail, parce que c'est énormément de coordination pour l'enfant d'apprendre à marcher.
Il tombe, il se relève, il se casse le nez, il tombe, il se relève. On est tous passés par là. Voilà. Alors, ce livre me fascine, sincèrement. Le neuroscientifique Shane O'Mara, qui invite le lecteur d'ailleurs à s'émerveiller de cette faculté qui active et guérit tout notre corps, en plus d'être bonne pour notre posture et nos muscles.
Oui.
Donc, la marche accroît nos capacités cérébrales et peut même ralentir le vieillissement de notre cerveau.
Absolument.
Donc, grâce à la marche, notre esprit devient plus créatif, notre humeur et notre mémoire s'améliorent et notre niveau de stress diminue.
Oui.
Que du positif dans la marche.
Je reviens à notre histoire de chasseur-cueilleur nomade.
Oui.
Donc, pour manger, les gens fouillaient ou cherchaient des fruits, des tubercules, des racines.
Oui.
Et chassaient. Donc, on était toujours en déplacement. Maintenant, on n'est pas en déplacement. La machine humaine est faite pour être debout à se déplacer. Donc, plusieurs heures par jour. La machine humaine a besoin d'être debout. D'ailleurs, vous allez être d'accord avec moi aussi. On est tellement assis devant nos écrans les maux de dos, c'est parce qu'on est trop assis tout le temps. Le bas du dos ne peut pas supporter le poids, comme le coccyx ne peut pas supporter le poids comme ça, toujours assis. C'est parce qu'on est toujours assis qu'il y a des problèmes de dos, entre autres. Mais ce qui est fascinant avec la marche, c'est que d'abord, il y a tout l'aspect biomécanique de la marche, parce que ça implique le réseau locomoteur spinal. C'est dans la colonne vertébrale. C'est en partie ce qui fait qu'on peut avancer.
Oui.
Il y a le cerveau, mais aussi la colonne vertébrale qui joue un rôle.
Et surtout, si on n'a pas une chaise de bureau ergonomique.
Oui, ou être debout à son bureau.
Oui.
Donc, c'est essentiel d'être debout régulièrement. D'ailleurs, maintenant, je pense que tout le monde le sait. Là, on se fait dire restez pas assis. Et même nos montres Apple, nos montres Apple nous disent levez-vous, étirez-vous. Mais l'idée, c'est de bouger plus. C'est prouvé que des gens qui étaient très sédentaires, qui se mettent à marcher de façon régulière, des gens d'un certain âge, vont gagner jusqu'à 2 ans. Je ne veux pas dire qu'ils vont rajeunir, mais ils vont mesurer ces personnes-là après dans des études, et ces gens-là ont comme retrouvé un niveau comment je pourrais dire, de santé qui est améliorée de 2 ans.
Wow.
Quand tu rajeunis 2 ans, parenthèse.
Oui, ça ralentit le vieillissement.
Oui.
En gros, c'est ça. Lison, oui. On fait une pause musicale.
Ben, je vous écoute, moi, voilà. Certainement.
Et puis on vous revient. À tout de suite.
Absolument.
Ouais.
Grandir quelque part, par un pur hasard dans une petite ville, tranquille, sans feu et sans gloire, entre deux boulevards, quelque part sur une île, docile. Et je me demande encore si j'ai une destinée. Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né. Grandir quelque part, au pied d'un rempart, en temps de sang de guerre, se taire. Grandir sans vouloir, grandir sans savoir, par l'ombre et la lumière, se faire. Et je me demande encore si j'ai une destinée. Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né. Sans trop faire de racines, d'épines. Grandir pour grandir, grandir pour partir, qu'une histoire se dessine, s'affirme. Et je me demande encore si j'ai une destinée. Et je me demande jusqu'où je suis, d'où je suis né.
Cet ouvrage qui nous apprend, on est toujours avec notre invité, pour ceux qui viennent de nous prendre à la courte en marche, Lison Lescarbot, qui est présidente et éditrice de la maison d'édition aux éditions au Château d'Ancre, qui a, avec la complicité de Marc, je vais pas dire, Paul Marcel Adam, qui ont traduit ce livre en français pour nous, comme elle a dit en début d'émission. Elle est en train d'avoir des pourparlers là pour faire la traduction aussi du côté de la France pour être distribué là-bas. Donc cet ouvrage nous apprend que marcher en groupe renforce les liens sociaux qui sont à l'origine de notre survie en tant qu'espèce.
Absolument.
Il révèle en outre aussi que nous sommes équipés d'un GPS interne. Ça m'a fait sourire. Mm-hmm. Voilà.
Mais oui.
Un GPS interne mis en œuvre par le cerveau et le système nerveux qui nous permet de garder l'équilibre et de nous orienter dans une ville.
Mm-hmm. D'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est plein de petites histoires comme ça parce qu'il y a... Évidemment, on parle du cerveau, donc on va parler de tout ce qui se passe dans le cerveau.
Oui.
Mais Shane O'Mara raconte, entre autres, dans un des premiers chapitres, qu'il va se promener à Dublin, à Belfast, en fait. Et il était allé dans les années 80, pendant qu'il y avait des troupes des années 80.
Oui.
Donc, puis il était passé devant un hôtel qui s'appelle l'Hôtel Europa. Dans les années 80, quand il était étudiant.
Oui.
Et là, il retourne 10 ans plus tard. Puis il sait à peu près c'est où, mais c'est pas tout à fait comme c'était dans la réalité. Mais la raison, c'est qu'on a dans le cerveau, imaginez-vous donc, des petites cellules qui s'appellent des cellules de lieu, qui s'allument.
Cellules de lieu.
Oui, qui, quand on passe à un endroit... Quand on est debout puis on marche, notre cerveau est allumé comme un feu d'artifice, c'est-à-dire qu'on capte énormément d'informations de façon inconsciente.
Mmh.
Et entre autres, ces petites cellules sont comme un jeu de taupe. Elles s'allument quand elles remontent à la surface. C'est comme ça s'allumait. Là. Quand on passe une deuxième fois dans le même lieu.
Oui.
Elle s'allume, donc souvent, c'est ça qui fait qu'on peut reconnaître un endroit, même si on est allé juste une fois.
Ah.
Et quand on ne sait pas où on est du tout, c'est qu'on n'est jamais allé à cet endroit.
Mm-hmm.
Mais on va retrouver son chemin parce que ces cellules-là vont donner l'information, ils vont collecter l'information et elles sont réactivées au moment où on passe au même endroit parce que on le capte, on l'analyse très rapidement dans le cerveau. Et on peut c'est pour ça qu'on peut se naviguer dans une ville quand on est allé la deuxième fois, même si c'est vraiment plusieurs années plus tard.
Oui.
Tout est emmagasiné.
Wow. Intéressant. Non, parce que là, vraiment, mais moi, la question que je me suis, quand je commençais à lire le livre, je me suis dit, mais la marche, tout le monde marche. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis du matin au soir ou bien sans chez lui, même s'il n'est pas allé au travail, il faut qu'il aille à l'épicerie. Il faut qu'il aille au dépanneur, il faut qu'il aille au petit coin,
Il y en a qui prennent la voiture pour le dépanneur. Je pense que le confinement, ce qui est bien, je ne veux pas dire que la pandémie c'est bien, mais une chose positive avec la pandémie, c'est que les gens qui se sont retrouvés un peu en confinement,
oui.
avec des heures retombées, sont allés dehors davantage. Je pense que maintenant, on apprécie davantage les choses simples.
Oui.
C'est-à-dire cuisiner davantage à la maison.
Oui.
L'importance d'être avec sa famille, ses proches, ses amis, et sortir tout simplement aller prendre une marche.
Oui.
Je pense que ça l'a beaucoup aidé. Ça diminue le stress énormément. C'est une des raisons pourquoi je suis allée chercher Jonathan Bruyère comme préfacier, car Jonathan, c'est un grand marcheur. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui il y a quelques années. C'est lui qui dirige le programme de l'Institut universitaire en santé mentale à Montréal.
Oui.
Et c'est prouvé que le fait de marcher beaucoup, marcher régulièrement, a des répercussions très positives sur les problématiques de santé mentale. Il y a même des études en ce moment qui proposent y a des hypothèses qui sont étudiées pour dire que en fait la problématique des Occidentaux, c'est qu'on est trop sédentaire. Donc beaucoup de problèmes de santé mentale seraient reliés au fait, je dirais, l'environnement peut aider, la génétique aussi,
oui.
mais le fait d'être si sédentaire contribue à la problématique reliée peut-être à l'anxiété, à la dépression.
Et autres, et plein de choses. Moi, oui. Ce qui me plaît dans cet ouvrage-là, lisons, c'est que c'est une vulgarisation scientifique de la traduction. Hein. C'est oui. C'est-à-dire que de la marche même, c'est ce neuroscientifique qui pour lui, et d'ailleurs lui c'est un grand marcheur, hein.
Mm-hmm.
Voilà, il vulgarise ça pour nous dans un livre avec sa plume. Et oui. Pour nous faire comprendre que... Non, et puis en plus, c'est gratuit, marché. C'est pas payant.
Oui, mais ça coûte rien.
Ça en coûte fait, rien, en plus.
Une paire de chaussures.
Voilà.
En plus, mais qu'est-ce qui est plus... Est-ce qu'il y a quelque chose de plus... Dites-moi vraiment, c'est genre... C'est pas formidable d'aller marcher tout un après-midi avec un ami ou quelqu'un qu'on aime, justement.
Ça ne peut que faire du bien au corps et à l'esprit.
Oui, tout à fait, tout à fait. Puis, c'est un livre, à mon avis, c'est le meilleur livre sur la marche. Moi, j'en lis quand même beaucoup, mais j'ai adoré.
Celui-là, c'est ce qui fait que vous avez pris la décision avec votre complice en traduction, Paul Marcel Adam, de le traduire d'ailleurs. Alors, un dernier mot pour les 30 dernières secondes qui nous restent.
Oui.
À ceux qui nous écoutent, il est déjà en librairie de toutes les façons. Oui. Il y a des gens qui sont tout le temps avec le iPad, je ne sais quoi, là, les appareils électroniques là, dont nous sommes tous esclaves.
Oui.
Ils peuvent l'avoir aussi en version électronique.
En version numérique.
Numérique, voilà.
Oui, absolument.
Oui.
Puis écoutez, on vous invite à communiquer avec nous. On est facile à trouver sur le web. Si vous avez... Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour nous dire... Il y a quelqu'un à Sherbrooke, imaginez-vous donc, qui m'a appelé pendant les fêtes pour me dire qu'il avait déposé un projet à la ville de Sherbrooke pour que les urbanistes engagent aussi un neuroscientifique pour aider à rendre Sherbrooke une ville plus marchable.
Ah.
Donc, je pense que ça l'a...
Ce serait une bonne manière de faire la promotion de ces livres là-bas.
Absolument.
Voilà. Alors, le site web de la maison d'édition Château d'Ancre, c'est en un seul mot, Château d'Ancre?
Châteaudancre.ca.
Puis,
le livre s'appelle « Le super-pouvoir de la marche » de Shane O'Mara.
Oui. Merci beaucoup, Lison Lescarbot, présidente et éditrice en même temps au château, aux éditions Château d'Ancre. J'espère que ce n'est pas la première traduction qu'on va lire de votre part, ou bien pourquoi pas une prochaine fois un livre écrit par vous-même.
J'ai plein de choses pour vous. Je pensais à vous justement juste avant de. Je me suis dit, j'ai quelque chose en ce moment, il va adorer ça, je suis sûr.
Merci beaucoup, Lison.
Merci, Fulgence, de recevoir votre émission.
À bientôt.
À bientôt, tout le monde.
Merci, au revoir. On termine comme ça l'émission avec Sam Tucker, Calm Down Child. Merci à Stéphane Baudry qui avait nous parlé du parc du Mont Loup-Garou. Et merci à notre invité Lison Lescarbot, présidente éditrice aux éditions Château d'Ancre, qui a traduit, qui a co-traduit le livre avec Paul Marcel Adam, Le pouvoir, le super pouvoir de la marche, la science et les bienfaits de la marche sur le corps et l'esprit. De nouveau, merci à toi Nicolas. Merci à nos fidèles auditeurs et auditrices. Et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M. Et je vous dis ciao.